Ce matin, Armand Gatti, pourquoi le cinéma? Pour une raison, alors qui est que nous connaissons, pas un très grand spécialiste de l'œuvre de Gatti, mais ce qui m'a intéressé, c'était de replacer les films de Gatti à l'intérieur, on va dire, de l'imaginaire cinématographique dans lequel il a pratiqué, son cinéma. Et surtout de partir de quelque chose qui me semble être une grande tension en fait dans l'œuvre d'Armand Gatti, c'est une tension qui réside entre ses films, le cinéma et ce qu'il a pu dire du cinéma. Gatti disait que quand il a commencé à, dans un entretien en 62, il disait que quand il a commencé à faire du cinéma, il a considéré que c'était un langage qui lui était immédiatement familier. Et pourtant, on peut lire plus tard que Gatti dira que, selon lui, les images de cinéma lui semblent incapables de créer Dieu, contrairement aux mots. Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre Armand Gatti comme donc un cinéaste, un praticien du cinéma, et en même temps comme un théoricien aussi du cinéma, à l'intérieur de ses films, mais aussi à partir de ce qu'il a pu déclarer sur le cinéma. Et on trouve donc dans un très grand poème, sorti de la première lettre, sur un contre-opéra, un ensemble de textes sur le cinéma qui sont extrêmement, extrêmement intéressants. Alors je vais citer des passages comme ça et on en reparlera après. Mais par exemple, voilà. Partout où la police montait, à pied ou en voiture, tirait, on disait, par là est passé Enrico Malatesta. Les actualités filmées, même si les images vieillissent, elles n'atteignent pas pour autant leur majorité. C'est par le cadre du cinéma, c'est par le cadre que l'histoire se remet en question. Chaque séquence est une de ces cavaleries sur les plaines de l'Ukraine, brandissant la révolution, mais où Trotsky l'emporte toujours sur Makhno, parce que l'efficacité l'emporte toujours sur la vieille beauté du geste, l'envol des plaines tablées. Plus loin, le cinéma est le tombeau de l'Indien à travers le monde. L'extermination des montagnes rocheuses, les dynasties éteintes dans les vallées du Dakota, transportées sur ces fleuves d'une heure et demie qui font le tour des mauvais rêves de la terre. Prix usuraire exigé par la funératrice ambulante, ne pouvoir être vivant ou mort sur pellicule qu'en travestie commerciale. C'est une condamnation extrêmement forte du cinéma hollywoodien, western en particulier, tel qu'on le connaît dans sa forme dominante. Et alors je termine avec ce dernier passage. Pourquoi faire un film ? Entrer dans cette guerre civile qui est au combat de la rue, ce que les arbres sont au jardin lorsqu'ils entrent dans un tableau de peintre du dimanche. Pourquoi chanter le cinéma comme on chanterait à l'ablation de ses sens sur une table d'opération ? Il a encore une condamnation extrêmement forte du cinéma, ou en tout cas du cinéma dominant. Pour exactement les mêmes raisons que le libertaire Berneri écrivait dans Barcelone insurgé sur le communiste Gramsci, mort de la nuit mussolinienne, son ennemi d'idées, mais en principe son compagnon de combat. Pour les mêmes raisons que Berneri écrivait, trois jours avant d'être assassiné, par les services de police communiste d'alors, quoi qu'il en coûte, comprendre. Et le poème se conclut là-dessus. Donner aux hommes et à leurs images leur seule dimension habitable, la démesure. Donc dans ce poème-là, ce que moi j'interprète comme étant une tension, c'est qu'on voit qu'il y a une très forte condamnation, et à juste titre, de tout un pan du cinéma dominant, mais en même temps toujours une idée que, avec les images de cinéma, on peut créer autre chose. Et c'est un peu ce que je vais essayer de montrer en partant de son cinéma. Je ferai juste une remarque, c'est que, moi, venant des études cinématographiques, il est quand même assez frappant de voir que Armand Gatti est très très peu étudié dans les études cinématographiques. Alors il y a plusieurs hypothèses. On pourrait dire qu'il y a une des hypothèses qui est que Gatti ne se rattache pas véritablement à un courant esthétique bien défini dans l'histoire du cinéma. Il y a toujours, si vous avez vu hier soir L'Enclos et L'Otro Cristobal, mais si vous avez vu ses autres films, on voit que il a sans cesse adapté sa pratique, on va dire, aux objets qu'il voulait mettre en scène. L'autre chose, c'est que c'est très difficile aussi de penser à Armand Gatti dans l'histoire du cinéma quand on pense l'histoire du cinéma par nationalité. L'Enclos, bon, c'est un film français, mais dans lequel on parle français et allemand. L'Otro Cristobal, on pourrait dire, c'est un film cubain. Le Passage de l'Èbre, c'est un immigré espagnol, en Allemagne, on pourrait dire que c'est un film allemand. Les vidéos, notamment donc Le Lion saccagé ses ailes, c'est sur les communautés immigrées dans les usines Peugeot. Donc là encore, voilà, ce serait aussi des raisons que pourraient se donner les études cinématographiques pour oublier ou en tout cas mettre de côté Armand Gatti. Et il est également éloigné en fait des tendances cinématographiques de l'époque, c'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas, il commence dans les années 60, début des années 60, on est en pleine nouvelle vague, et pourtant il ne s'inscrit absolument pas dans ce courant-là de la nouvelle vague, même s'il aura des amitiés avec Chris Marker, Agnès Varda, Alain René. Il dira même dans un entretien en 62 qu'il formait un groupe avec eux, tout en disant que leur film était extrêmement singulier, etc., et qu'il n'y avait pas de cohérence, on va dire, esthétique au sein de ce groupe entre ces quatre cinéastes. Une des raisons, moi, qui me pousse à dire que Armand Gatti n'entre pas dans les cases telles qu'elles sont élaborées par l'histoire du cinéma institutionnel, c'est qu'il ne rentre pas non plus dans la case du cinéaste international, le cinéaste qui ferait des films pour le monde entier, etc., mais dans la case plutôt du cinéaste, enfin, je le mettrais plutôt dans la case du cinéaste internationaliste, dans le sens où chacun de ses films ont été des tentatives d'instaurer des rapports de solidarité avec les peuples qui filmaient, mais aussi avec les spectateurs auxquels étaient projetés ces films-là. Solidarité avec la révolution cubaine, solidarité avec les ouvriers des Peugeot, etc. Et j'oubliais, bien sûr, nous étions tous des non-nards en Irlande. Alors, aujourd'hui, je vais parler principalement, comme j'ai une demi-heure, et j'espère que Sophie me dira quand est-ce que je dois arrêter.
Compte sur moi.
Je vais parler peut-être principalement de l'Enclos et de l'autre Cristobal, puisque déjà, vous les avez sans doute vus hier soir. Je dirais quand même un mot, j'espère, sur Le lion, sa cage et ses ailes.
Non, c'est lui.
Pardon ?
C'est lui. Il est content.
Alors, L'Enclos, c'est le premier film d'Armand Gatti et c'est, il me semble, sa première mise en scène, théâtre et cinéma confondu, je regarde les spécialistes, théâtre et cinéma confondu, il me semble que c'est la première mise en scène d'Armand Gatti. Et alors, ce film-là, j'ai envie de le replacer par rapport à deux autres films qui sont presque contemporains, c'est Nuit et brouillard d'Alain René et c'est Capot de Gillo Pontecorvo. Pourquoi Nuit et brouillard d'Alain René? Parce que Armand Gatti disait en 62, toujours dans un entretien, que les films d'Alain René avaient eu sur lui une portée immense, mais quand même qu'il y avait une ligne de démarcation très claire pour Armand Gatti, c'est que Gatti considérait que pour lui le cinéma ça devait être un cinéma de lutte, un cinéma, je le cite, contre les états de fait, contre le conformisme, contre certaines façons de penser, et je rajoute, et donc d'une certaine manière contre le cinéma d'Alain René. Il parlait à ce moment-là de l'année dernière à Marion Bass. Alors je pourrais dire que Nuit et brouillard, peut-être, une des hypothèses que je pourrais soulever, c'est que peut-être que Nuit et brouillard a, d'une certaine manière, incité Armand Gatti à vraiment se mettre à la mise en scène de L'Enclos. Mais surtout que L'Enclos, c'est un film donc, qui s'inscrit, qui sort en 61, 62, et il s'inscrit dans les débats français contemporains autour de la représentation des camps et du réalisme au cinéma. En 1960, Gillo Pontecorvo, qui est un cinéaste italien, membre du Parti communiste italien, réalise un film qui s'appelle Capot, qui sera distribué en France en 1961, et qui va créer une polémique extrêmement importante, notamment au sein des cahiers du cinéma, parce que Jacques Rivette écrira un texte au sujet de ce film qui s'appelle De l'abjection. Et tout le texte va se concentrer uniquement sur un plan dans le film de Pontecorvo. C'est un plan dans lequel une déportée interprété par Emmanuel Riva, va se jeter contre les barbelés électrifiés, se suicider. Et il y a un plan où on a un mouvement de travelling, la caméra s'approche et va recadrer Emmanuel Riva accroché, morte, sur les barbelés. Et Jacques Rivette dira à ce moment-là que quelqu'un qui filme la mort comme ça est totalement immoral et c'est un plan totalement abject. Pourquoi ? Parce que selon Rivette, c'était un moyen esthétique qu'avait trouvé Pontecorvo pour embellir la mort, embellir le suicide. Et si on regarde L'Enclos, et je m'étais focalisé à une époque uniquement sur les travelling dans L'Enclos, et bien on remarque que Armand Gatti, quand il fait des travelling, c'est uniquement pour nous placer du côté des déportés qui sont en train de comploter, etc. Il y a tout un plan où on voit la caméra qui se déplace et on voit les déportés en train de se passer, je ne sais plus, des outils, etc. On voit tout un plan comme ça extrêmement beau, et c'est un plan qui nous place à l'abri du regard des nazis dans le camp, puisque eux ne voient pas ce que nous on voit. Et je pense que c'est exactement le contre-pied total à ce que fait Capua. Alors je ne sais pas du tout si Armand Gatti avait vu Capua Giro Protector Vaux. Je pense qu'il avait dû entendre les débats qui avaient eu lieu au sein des Cahiers du cinéma. Et Jean Douchet, qui était un critique au Cahiers du cinéma, lorsqu'il voit L'Enclos, alors Jean Douchet, entre parenthèses, sera très 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 critique vis-à-vis de L'Otro Cristobal, mais en tout cas, quand il voit L'Enclos, il dit quelque chose qui me semble extrêmement intéressant. Il dit qu'il préfère, il préfère dans L'Enclos le réalisme allégorique que propose Armand Gatti au réalisme apocalyptique des films précédents. Et je pense que les mots sont extrêmement bien choisis de la part de Boucher, parce que apocalyptique, la révélation, révélation. Et c'est vrai que Gatti oppose au film de révélation qui venait révéler l'horreur des camps, il oppose les gestes de résistance, des luttes, des opprimés contre leurs bourreaux. D'une certaine manière, je pourrais dire que contre la crainte et la pitié, qui sont les affects de la tragédie aristotélicienne que l'on retrouve dans Capot, des jeux de Cordier, Gatti oppose d'autres affects, qui seraient l'espérance et le défi, et qui sont pour Ernst Bloch, je voulais le citer, qui sont pour Ernst Bloch les affects tragiques révolutionnaires. La crainte et la pitié, on le sait, ce sont des affects qui tétanisent, qui paralysent les spectateurs. Tandis que l'espérance et le défi sont plutôt des affects enthousiasmants, encourageants, qui incitent les spectateurs à lutter. D'une certaine manière, ce que fait Armand Gatti, c'est qu'il refuse la crainte et la pitié, il la refuse, il les refuse en refusant l'identification des spectateurs aux personnages qu'ils représentent. Et pour refuser cette identification, il refuse la psychologisation des personnages qu'ils présentent dans les camps. Alors pourquoi cela? Parce que il me semble que ce qu'il y a de très fort chez Armand Gatti, c'est que dans son film L'Enclos, en tout cas, il refuse l'idée de partage d'une expérience impartageable. Tandis que un grand nombre de cinéastes, jusqu'à Spielberg, la liste de Schindler, ont toujours tenté de faire en sorte que le spectateur, pendant un temps, puisse s'identifier aux personnages qui sont représentés à l'écran et puisse être dans une idée qu'il y a quelque chose à partager de l'horreur du camp, alors que c'est une expérience qui est proprement impartageable. Et que donc il y a autre chose à inventer pour lutter contre le fascisme et le national-socialisme. En 62, Gatti, au sujet de ce film, disait quelque chose qui se rapproche d'ailleurs de ce que disait Rivette un an auparavant. Il disait que l'horreur, finalement, était très digestible. Elle fait rapidement partie de l'imagination et qu'on finit par vivre avec. Et c'est ce que Rivette déjà disait du film Capote de Pontecorvo. Il disait que, à force de montrer des images d'horreur, le très grand danger, c'est qu'on finisse par s'y habituer. En rapport avec aujourd'hui, quand on voit les images télévisées des migrants dans les camps, on les voit mourir en Méditerranée, est-ce que ces images n'ont pas d'autre fonction que de nous habituer à l'horreur qui est en train de se dérouler de même ? Alors, pour voir quelles seraient les influences d'Armand Gatti dans L'Enclos, il me semble qu'il faut, qu'on tourne du côté du cinéma polonais. Donc Gatti disait qu'il trouvait dans le cinéma polonais une forte dimension sociale et militante. On peut penser au premier film fait sur les camps de concentration, première fiction sur les camps de concentration, qui est un film de Wanda Jakubowska, qui s'appelle La dernière étape, qui a été tourné en 1948. Wanda Jakubowska, c'était une communiste polonaise qui a été déportée à Auschwitz, qui en est sortie et qui a décidé de décrire un scénario à partir de toutes les histoires qu'elle avait entendues, qui avaient été racontées dans le camp, pour aussi rendre hommage aux victimes du camp. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, si vous allez le voir, c'est que le film se partage en de très grands moments d'angoisse, de peur et de douleur, mais également des moments rares, si rares soient-ils, de joie, de partage et d'espoir, et qui pour Jakubowska étaient justement les signes et les traces des résistances qui s'opéraient à l'intérieur des camps. Il y a également deux autres films qu'on pourrait voir et mettre en parallèle. Ces deux films, alors il y en a un, peut-être que Gatti n'avait pas vu au moment où il est sorti, c'est un film qui s'appelle Une fille à parler. C'est un film réalisé en 1955, mais qui n'a été distribué en France qu'en 1962, un an après le tournage de L'Enclos. Dans lequel le film met en scène la résistance de la jeunesse de Varsovie pendant l'occupation, et un second film qui s'appelle Canal, sorti en 1957 et qui était sorti la même année en France, dans lequel Majda mettait en scène les soldats de différentes organisations militaires ou résistantes lors de l'insurrection de Varsovie. Et on voit bien que du côté du cinéma polonais, le parti pris esthétique, ça a été de montrer davantage les gestes de résistance que dans le cinéma français ou américain, dans lequel on mettait beaucoup plus l'accent sur les victimes. Et je pense que là, il y a un partage très fort entre, d'un côté, les déportés juifs, homosexuels, tziganes, communistes, qui sont dans le cinéma dominant, réduits à l'état de victimes uniquement, et de l'autre côté, le cinéma polonais ou le film d'Armand Gatti, qui lui visait plutôt à montrer ces personnes-là comme des opprimés, et des opprimés qui étaient en lutte contre leur oppression, qui donc étaient destinés à résister à la mort qui les attendait. Donc, pour moi, L'Enclos, c'est un film qui prend position politiquement dans l'histoire du cinéma et des représentations. Donc, contre le cinéma occidental dominant, contre les documentaires dont Armand Gatti disait, et on a vu à juste titre, que l'accumulation d'images bilan ne faisait rien d'autre que d'établir des comptabilités, mais que de cette comptabilité-là étaient évacuées toutes les questions justement de résistance. Et c'est également une position contre le cinéma réaliste socialiste qui glorifiait l'armée rouge, mais qui était incapable de montrer justement les résistances réelles et quotidiennes dans les camps. Alors si je passe à l'autre Cristobal, là encore il y a un film qui est intéressant à mettre en rapport avec l'autre Cristobal, c'est le film de Chris Marker, Kubasi, de 1961. Qui est un film documentaire qui enquête sur la vie quotidienne des Cubains après la prise de pouvoir par Fidel Castro. C'est un film qui a été censuré à sa sortie, notamment par le ministère de l'Information et notamment pour un commentaire à la fin du film dans lequel Chris Marker disait « Il semble bien que ce monde ne croit que les témoins qui se font égorger et qu'au besoin, il est prêt à les égorger pour les croire. » Alors on peut se demander justement si El Otro Cristobal n'est pas une réaction au parti pris documentaire et au parti pris réaliste de Chris Marker, tant Armand Gatti va établir une fable totalement allégorique, etc., déployer un imaginaire extrêmement riche et puisant dans des sources extrêmement diverses de la culture cubaine, vaudou, etc. Et aussi contre les sages, alors ça c'est dans La parole errante, dans le passage sur l'autre Christophe Colomb à Cuba. Il y a un passage où Gatti écrit, c'est la page 3, donc dans le dialogue entre les différentes pages, la page 3 dit « Nous ne nous amputerons pas de l'invention sous prétexte d'originalité, nous ne tournerons pas les 6 heures ininterrompues du sommeil d'un dormeur, ni les 8 heures d'un gratte-ciel sous le même angle, nous nous priverons du coup de génie qui nous ferait passer de 24 images secondes à 8 pour montrer un couple qui s'embrasse interminablement pendant toute une séance. » Alors ce qui est drôle, c'est que c'est, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça fait référence, mais cette note-là, elle fait référence à 3 films d'Andy Warhol. Le premier, c'est le film Sleep, dans lequel Warhol filmait le poète John Giorno en train de dormir pendant 8 heures, et donc on assistait à la production pendant 8 heures. Empire, c'est un film sur l'Empire State Building, également un film très long, un plan sur l'Empire State Building, on voit les variations de lumière sur 8 heures, et Kiss. Ce qui est intéressant, c'est que ces films ont été tournés en 63 et 64 par Andy Warhol, donc la référence, elle est anachronique par rapport à la réalisation d'El Otro Cristobal, puisque quand Armand Gatti réalise El Otro Cristobal, ce film n'a pas été tourné. Mais la référence montre bien que El Otro Cristobal, c'est aussi un cri esthétique contre une certaine tendance réaliste du cinéma, et ça j'y reviendrai après quand je parlerai du cinéma militant, parce que il me semble que Gatti s'est aussi opposé au cinéma militant dominant, même si c'est encore un ghetto, c'est qu'il il s'oppose au réalisme et qu'il fait presque sien une phrase qu'Abel Gance avait prononcée lors d'une conférence qui disait « La réalité est insuffisante au cinéma. La réalité est insuffisante. Il nous faut plus que la réalité qui se présente, parce que la réalité aujourd'hui, telle qu'on peut la définir dans notre imaginaire, effectivement, elle est extrêmement paralysante et extrêmement intimidante. Et donc il va falloir inventer et faire quelque chose de plus. Et El Otro Cristobal, c'est la traduction en cinéma, une tentative de dire que pour être révolutionnaire, eh bien, il va falloir inventer quelque chose de plus que ce que la réalité a à nous offrir. Je disais contre le cinéma militant parce que on peut rattacher ce cri contre la réalité et l'insuffisance de la réalité quand on regarde le cinéma militant qui se déploie à partir des années 68 et le Million de saccages et ses ailes arrive en 1975. Et avant ça, on a eu tout un tas de collectifs de cinéastes militants qui se sont constitués. Alors, Chris Marker va participer à l'initiation d'un groupe qui s'appelle le groupe Medvedkin, dans lesquels, alors je passe très vite hein, sur l'histoire, Chris Marker réalise un premier film qui s'appelle A Bientôt J'espère. Les ouvriers voient le film et disent c'est un scandale, etc. C'est pas tout ça qu'on veut montrer. Et Chris Marker décide de donner les caméras aux ouvriers pour qu'ils fassent leur propre film. Dans lesquels on a des films extrêmement variés, mais on a énormément de films plutôt de témoignages. Et puis on a d'autres tendances, on avait le groupe Ciné-Lutte également qui faisait aussi des films plutôt de témoignages militants. Et on a une autre tendance qui est le groupe, qui sont les groupes Zygavertov, dirigé par Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin, et les groupes Cinétiques, qui étaient une revue militante maoïste. Donc Zygavertov et Cinétiques étaient maoïstes. Mais disons que, pour le faire très vite, dans le cinéma militant, on avait d'un côté le cinéma de témoignage, c'est-à-dire un cinéma de contre-information, qui disait, ben voilà, la situation des ouvriers n'est pas présente dans les médias dominants, il va falloir produire nos propres images pour venir témoigner de la réalité. Et d'un côté, le groupe Zygavertov ou le groupe Cinétique, qui eux étaient plutôt dans l'idée de, bon, il va falloir expliquer aux masses le marxisme, léninisme, maoïsme, pour que ceux-ci s'en emparent et ensuite passent à l'action. Mais dans les deux cas, ça repose sur quelque chose qui est assez problématique. Dans les deux cas, on suppose que les spectateurs ne sont soit pas assez informés. Alors, on se demande à qui est adressé les films du groupe Medvedkin ou Ciné-Lutte, puisque les ouvriers savent que le travail est pénible. Je caricature un peu, hein. C'est plus compliqué que ça et plus subtil dans le détail. Et de l'autre côté, on a des Gavertov cinétiques qui disent, bon ben, si les masses ne sont pas révolutionnaires, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas encore lu Le Petit Livre Rouge. Et donc, on va cinématographiquement leur proposer des exemples d'application du Petit Livre Rouge. Même si, encore une fois, dans le détail, c'est plus compliqué, puisqu'il s'intéresse aussi à la question des images, et les films sont bien plus riches que ce que j'en dis jusqu'à présent. Mais Le Lion, sa cage et ses ailes vient trancher avec ce partage-là, et il me semble que le fait que Carole Roussopoulos et Paul Roussopoulos aient participé ou aient accompagné un petit peu le projet, en tout cas en fournissant peut-être du matériel, etc., me semble rejoindre quelque chose, c'est que les collectifs vidéo-féministes de Carole Roussopoulos c'était basé sur l'idée que si les femmes devaient commencer à faire des films pour elles-mêmes et pour parler de leur lutte, il allait aussi falloir s'intéresser aux esthétiques de leurs films et penser les images qu'elles voulaient représenter et ne pas copier justement les images du cinéma dominant. Et Le Lion, sa cage et ses ailes vient trancher avec l'imaginaire dominant. Parce que Le Lion, sa cage et ses ailes, c'est Jean-Paul Fargier qui le disait dans un texte, a été visiblement très mal accueilli par les militants. Parce que les militants d'extrême gauche avaient bien compris ce qu'avait dit Marx lorsque Marx disait les travailleurs n'ont pas de patrie. Et donc c'était bizarre, c'était extrêmement étrange de vouloir atomiser la classe ouvrière en différentes communautés polonaises, italiennes, yougoslaves, etc. Mais justement, ce que fait Armand Gatti à cet endroit-là, c'est aussi de montrer que justement la classe ouvrière existe et en même temps elle n'existe pas. C'est-à-dire que la classe ouvrière, c'est effectivement le rêve des révolutionnaires de la rassembler et de faire en sorte qu'elle passe à l'action pour la transformation de la société, mais c'est aussi le rêve patronal. C'est aussi la classe ouvrière homogène, uniforme, etc., qui se plie aux impératifs économiques capitalistes. Or, ce que fait Armand Gatti, c'est justement de fracturer cette classe ouvrière pour montrer l'incroyable hétérogénéité des membres qui la composent, des histoires qui la traversent. Et que si Marx a écrit effectivement que les travailleurs n'ont pas de patrie, eh bien, dans la réalité, le problème, c'est un des problèmes, et c'est aussi un des points sur lesquels ils peuvent s'appuyer, c'est que oui, les travailleurs ont des patries, ils ont des singularités, et ils ont des cultures et des histoires qui leur sont particulières. Ce qui est intéressant dans Le Lion, sa cage et ses ailes, c'est que l'invitation qui avait été faite, c'était un film, le vôtre. Là où Armand Gatti tranche avec ce que pouvaient faire les autres groupes, c'est que Il me semble que dans les films qui nous sont proposés, Gatti n'a pas vraiment une position de surplomb par rapport aux ouvriers qui ont participé à faire le film. Au contraire, il a accompagné, on sent qu'il a accompagné leur propre processus de création. Et c'est là qu'il y a une différence radicale, c'est que Armand Gatti ne se pose pas en maître explicateur qui va venir apporter le savoir qui manque aux autres. Il va au contraire mettre en valeur les capacités d'imagination et de création qui gisent dans les corps de tous les individus avec lesquels il a travaillé. Et alors, j'en suis où ?
Bientôt,
okay. Alors je conclue. Il me semble que c'est exactement à cet endroit-là que le cinéma de Gatti a encore quelque chose à nous apporter aujourd'hui, dont il faudrait véritablement que l'on s'en passe. C'est qu'effectivement, si on part de cette idée que la réalité est insuffisante, que le documentaire, que le témoignage ne nous sont pas de très grande utilité, mais que ce qu'il faut, c'est renouer avec nos propres capacités d'imagination et de création, on retrouve alors quelque chose que je cite tout le temps, alors il y a un nom qu'ils ont déjà entendu plein de fois, mais qui est un texte de Walter Benjamin qui s'appelle « L'auteur comme producteur ». Benjamin écrivait cela: « Un auteur qui n'apprend rien aux écrivains n'apprend rien à personne. » Et donc déterminant le caractère paradigmatique de la production qui, premièrement, est capable d'initier d'autres producteurs à la production, et deuxièmement, de mettre à leur disposition un appareil amélioré. Et cet appareil sera d'autant meilleur qu'il conduira un plus grand nombre de consommateurs à la production, bref, qu'il sera en état de transformer lecteur ou spectateur en co-acteur. Et des rencontres que j'ai pu faire avec Armand Gatti, avec son théâtre et avec son cinéma, il me semble que c'est ce qui est vraiment au cœur de son travail, c'est de nous transformer, nous, qui avons des attitudes peut-être de consommateurs qui pensons que nous n'avons pas les capacités d'eux, de passer au travail de création, de production. Et que c'est exactement ça, et je le relierai avec ce que l'on peut trouver dans la philosophie chinoise esthétique, dans laquelle on ne parle pas de création, mais on parle d'incitation. Que les peintres, dans la philosophie chinoise, sont incités à produire une peinture. Les poètes sont incités à produire un texte, un poème. Armand Gatti, selon moi, tente dans son œuvre de produire cette forme d'incitation chez ses spectateurs et ceux avec lesquels il travaille bien évidemment, et de faire circuler cette incitation afin de nous renouer avec des désirs d'émancipation qui ne peuvent pas se passer de la création artistique, et donc un désir d'émancipation qui se fera par l'art ou avec l'art, mais pas sans. Thank you.